clé en main en ce mois d'octobre. Alain Roumestan, bonjour. Pour cette deuxième émission, après un Flaubert 2021, au mois de septembre, nous quittons la littérature pour l'Afghanistan et les talibans. J'ai eu l'opportunité d'un entretien avec l'ex-ambassadeur de France en Afghanistan, Jean-Yves Berthaud. En cette période de retour au pouvoir des talibans, il était sans aucun doute intéressant d'avoir l'avis d'un expert sur l'avenir de ce pays, essentiel dans sa région, au contact de l'Iran, du Pakistan et des anciennes républiques de l'Union soviétique. L'Afghanistan intéresse aussi la France et le monde, qu'on se rappelle pourquoi les États-Unis sont intervenus à Kaboul après le drame incommensurable du World Trade Center, 3000 morts dans un seul attentat.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un livre au franc succès actuel, « Déjeuner avec les talibans », révélation d'un diplomate, qui est paru en pleine actualité avec la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, alors que les derniers soldats américains ont quitté le pays. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, une brève biographie pour éclairer les auditeurs de Radio Provinciale.
Bien, je suis entré dans la carrière diplomatique après avoir fait Sciences Po et d'autres études en 1979 et mon premier poste a été l'Afghanistan. Voilà, c'était une sorte de mauvaise pioche, entre guillemets, dont j'étais absolument ravi, alors que ce pays était déjà en guerre civile qui larvait. À ce moment-là, on venait d'avoir une révolution communiste en avril 78 qui avait jeté à bas la présidence de Daoud, un ancien cousin du dernier monarque, le roi Zahir Shah. Et je suis arrivé donc en 79, à un moment où on voyait que le régime communiste vacillait, et c'était la veille de l'invasion soviétique de décembre 79. Donc j'y ai vu l'avènement de l'insurrection et les premiers moudjahidines. J'ai observé tout ça, je rapporte ça dans mon livre, évidemment, cette montée de ces événements qui ont plongé le pays pendant 43 ans dans une guerre civile interminable sous diverses formes. Ensuite, je suis resté 2 ans à ce moment-là. Je suis revenu en Afghanistan 20 ans plus tard, un peu moins de 20 ans, 18 ans plus tard, lorsque l'on cherchait quelqu'un connaissant l'Afghanistan, un diplomate connaissant l'Afghanistan, pour le job de conseiller politique de la mission spéciale de l'ONU pour l'Afghanistan, qui cherchait les voies d'un règlement entre les talibans et leurs opposants. Et ensuite, j'ai dirigé l'ambassade de France où j'avais fait mes débuts Cela de 98 à 2001, c'est-à-dire jusqu'à la chute des talibans, trois années de longues conversations avec les talibans. Et voilà, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de postes dans le monde arabo-musulman entre-temps et depuis. J'ai été dans des pays aussi divers que l'Algérie, le Maroc, la Syrie, l'Azerbaïdjan et d'autres pays plus lointains, le Pakistan. Et le Brunei même, qui est le dernier pays à l'est, donc du Maroc au Brunei, j'ai eu l'occasion d'analyser l'islam et les divers régimes politiques où l'islam est présent. Et cela a été une carrière très riche et très intéressante, je dois dire.
Votre livre Déjeuner avec les talibans, qui est paru aux éditions Saint-Simon, fait une belle place au portrait des responsables talibans que vous avez rencontrés lors de déjeuners ou dans d'autres cadres. À travers ces portraits, vous décrivez une réalité talibane. Est-ce que vous pouvez nous dresser, par quelques exemples, le portrait type des talibans ou plutôt le portrait multiple, car ils semblent être très différents les uns des autres?
Vous savez, l'Afghanistan est un pays où la société est dictée en quelque sorte par la géographie. C'est un pays très morcelé par ses montagnes et donc chaque vallée a ses particularités, sinon ses particularismes. Et on retrouve ça aussi dans les idéologies. Vous avez 1000 vallées et vous avez 1000 façons, 1000 bonnets brodés pour chaque tribu, chaque sous-tribu, etc. Et les mentalités, finalement, suivent un peu ce schéma. Et autant d'Afghans, autant de partis politiques, j'aurais presque tendance à dire. Donc c'est un pays très complexe et le mouvement des talibans n'échappe pas à cette règle. Vous avez des gens qui ne pensent, enfin qui sont plongés dans la prière et qui voient en leur mouvement la possibilité de faire triompher un islam comme celui des tout débuts de l'époque du prophète. D'autres qui, au contraire, voient, mais ils sont beaucoup moins nombreux, voient l'opportunité du djihad qui faisait partie des obligations saintes, mais à l'époque, évidemment, où il y avait des problèmes politiques au tout début de l'islam. Mais en fait, ce qui rassemble et ce qui unifie le mouvement, c'est la référence à une idéologie religieuse fondée sur le wahhabisme, c'est-à-dire la doctrine assez rigoureuse qui est celle des Saoudiens en général, de certains autres pays du Golfe, et qui est également celle d'une école qu'on appelle Deobandi, du nom d'une ville, Deoband, du nord de l'Inde, où il y avait des madrassas qui enseignaient cette doctrine assez proche du wahhabisme. Donc une grande rigueur et un traditionnalisme, un fondamentalisme au sens propre du terme islamique. Et sur le plan politique, des appréhensions qui peuvent être extrêmement différentes d'un individu à l'autre. C'est ce que j'ai voulu faire à travers cette galerie de portraits en décrivant les conversations que j'ai eues avec eux. Et l'idée, c'est de montrer qu'en fait, parmi eux, il y a des gens qui, tout en prônant naturellement le Coran et ses enseignements, estiment qu'ils doivent s'adapter au monde moderne dans certaines circonstances et selon les cas, et d'autres pour lesquels, en revanche, il n'y a pas de concession possible. Et j'ai mené pendant toutes ces années une sorte de combat dans mes conversations pour essayer de distinguer d'abord les modérés des radicaux et pour convaincre les plus modérés de coopérer et aussi en ayant présent à l'esprit de faire en sorte que la population souffre aussi peu que peu, enfin moins que s'il n'y avait pas eu ces échanges.
vous invitez à l'heure actuelle les Occidentaux à dialoguer avec les talibans, vous recevez un certain nombre de critiques sous la forme de « on ne pactise pas avec le diable ». Comment entendez-vous ces critiques ?
Ben, je les comprends très bien, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'aspects dans tout ce qui s'est fait à l'époque. Et si on prend les déclarations, même certaines des déclarations d'aujourd'hui, qui objectivement font froid dans le dos. Je veux dire, le fait que les femmes éduquées, pendant ces 20 ans davantage de libéralisme, il ne faut pas s'imaginer que ce libéralisme ait été excessif. Hein. Les femmes de Kaboul ne sont pas devenues tout d'un coup de petites dévergondées. Mais néanmoins, elles ont pu étudier, elles avaient la liberté d'aller et venir. Et ça, c'est un bien très précieux qui nous paraît à nous, occidentaux, tout à fait normal. Et tout d'un coup, disparaît. Donc je comprends très bien que dans une appréhension sentimentale, obligatoirement, on ressent une émotion négative et qu'on rejette tout ça, qu'on les envoie au diable. Je peux le comprendre. Mais en même temps, vous savez, dans la diplomatie, il faut être pragmatique, parce que si nous ne devions parler qu'à des pays qui nous ressemblent, il y en a à peu près une cinquantaine au grand maximum dans le monde, et comme il y a 200 pays dans le monde, ça en fait 150 qui ne nous ressemblent pas, et la plupart d'entre eux ne nous ressemblent pas du tout, et, y compris sur le plan idéologique. La moralité, mais aussi plein d'autres éléments qui feraient que on a du mal à s'entendre avec des dictateurs, quels qu'ils soient, avec des monarchies absolues et qui ne tiennent aucun compte des aspirations des peuples, etc. Donc voilà, pour être pragmatique et pour faire avancer les choses, et parce que le monde est devenu un village, évidemment, il y a 100 ans, on pouvait ignorer les pays qui nous déplaisaient. Aujourd'hui, le monde s'est rétréci. Et donc, le monde est un et, en quelque sorte, malheureusement, indivisible. Donc, il faut bien parler. Et si on laisse de côté les pays qui nous déplaisent, et d'abord, on se coupe avec les trois quarts du monde. Et ensuite, on perd toute chance de les faire évoluer dans le sens de nos intérêts ou des intérêts de leur peuple.
Dans vos actions passées en Afghanistan, vous avez contribué à améliorer la situation de la population en tant qu'ambassadeur notamment. Comment avez-vous fait et surtout, qu'avez-vous obtenu dans votre dialogue justement pour essayer d'améliorer la vie quotidienne, notamment des femmes dont on vient de parler ?
Il faut savoir qu'à l'époque, les pays unanimes avaient décidé de ne pas parler avec les talibans, donc de retirer leurs ambassades. Dans mon cas, dans le cas de la France, on avait pris une autre position, c'était dit qu'il fallait conserver les canaux. On avait plusieurs bonnes raisons pour ça. La première, c'était le fait que beaucoup d'ONG françaises étaient présentes, elles faisaient un travail absolument admirable, et à peu près la moitié de tous les humanitaires occidentaux présents en Afghanistan étaient des Français. Donc ça, voilà, on avait une bonne raison d'avoir quelqu'un qui puisse parler, parce qu'évidemment elle rencontrait des problèmes au quotidien absolument incommensurables, j'en parle beaucoup dans mon livre, et donc il fallait quelqu'un pour les protéger, pour les aider aussi éventuellement dans leur travail lorsqu'ils se heurtaient à de grandes difficultés d'ordre administratif, technique, etc. Ça, c'était une bonne raison. L'autre bonne raison, c'est qu'il fallait de l'observation, il fallait un diplomate est là pour rapporter ce qui se passe. Et évidemment, il fallait le faire. Et ça a été une grande partie de mon travail que de rédiger, évidemment, des télégrammes diplomatiques, politiques, sur la situation. Mais je ne parlais pas qu'aux talibans. Je parlais aussi, bien sûr, beaucoup avec le camp opposé, c'est-à-dire les gens de l'Alliance du Nord, et plus particulièrement avec l'entourage de Massoud. Et Massoud était difficilement joignable parce qu'il était dans sa vallée du Panjshir, dont les Français ont beaucoup entendu parler, y compris ces dernières semaines, malheureusement. Et donc, aller dans le Panjshir, c'était toute une affaire. À plusieurs reprises, j'ai essayé, j'y arrivais pas, parce qu'il y avait des intempéries, ou parce qu'il était en guerre et qu'il ne pouvait pas me voir, etc. Mais j'ai fini par le rencontrer néanmoins, mais j'en ai rencontré beaucoup d'autres. Et puis, j'ai aussi beaucoup été en relation avec l'ancien roi, qui, on verra plus tard peut-être au cours de cet entretien, m'a permis de jouer un rôle politique assez intéressant dans l'espoir de susciter une relève démocratique, dans la mesure où on voyait bien que, tout en parlant avec les talibans, on voyait bien que c'était pas très facile d'espérer des accommodements. Néanmoins, pour mieux répondre à votre question, des accommodements, je faisais un travail inlassable de persuasion. Comme il se trouve que je respecte beaucoup l'islam, je connais cette religion, je la connais bien, et donc j'étais en mesure de citer certains versets du Coran, etc., pour essayer de les convaincre. Ce n'était pas avec mes arguments d'occidental que j'aurais pu le faire, si on leur parlait du droit international, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce n'est pas un langage qui allait beaucoup les flatter, mais en revanche, il m'est arrivé de leur citer des exemples tirés du Coran, enfin, de la vie du prophète, les hadiths, etc., où je disais, regardez la clémence, du prophète, prenez exemple. Et c'est ainsi, par exemple, que j'étais arrivé à faire libérer deux malheureux jeunes gens français d'ONG en 97, je crois. Oui, c'était en 97. Qui allait être condamné à mort. Et voilà, la clémence du prophète nous a beaucoup aidés, je dois dire, à ce moment-là. Mais il y a eu d'autres cas, j'ai eu l'occasion d'en parler sur certains plateaux de télévision, mais par exemple, j'avais obtenu du ministre de la Santé, un peu de la même façon, enfin avec d'autres exemples, du ministre de la Santé qu'il ouvre des hôpitaux pour les femmes, puisque les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'hôpital, puisqu'il n'y avait pas assez de médecins femmes, et qu'il n'est pas question qu'elles soient possiblement auscultées par un homme. Enfin, tout ça était assez dérisoire. Mais en même temps, si vous voulez, même si j'étais seul à faire ce travail, il n'a pas été entièrement inutile. Je veux dire, si ça a permis de sauver la vie d'un certain nombre de femmes, c'est quand même déjà quelque chose. Et donc, je ne regrette pas, si vous voulez. Voilà, c'est pour dire que ce dialogue, bien sûr... Il paraît un peu illusoire et vain, mais voilà, quand il s'agit de sauver des vies humaines, quand il s'agit d'obtenir des progrès, aussi ténus qu'ils soient, c'est quelque chose que je ne regrette pas et que je voudrais convaincre qu'il faudrait le préconiser et le reprendre maintenant, mais il ne faudrait pas que ce soit seulement la France. Il faudrait que ce soit l'ensemble de la communauté internationale. À l'époque, j'avais un relais important parce qu'il y avait quelqu'un aux Nations Unies qui coordonnait les agences des Nations Unies présentes à Kaboul. Et donc, il y avait parmi ces gens-là, évidemment, quelques Occidentaux qui n'avaient pas exactement statut diplomatique. Ils avaient le statut ONU. Et il y avait un coordonnateur qui était quelqu'un de très bien et qui faisait un peu le même travail. On était tout à fait en phase. Et ça a été très utile, cette mise en phase.
Pour la grande presse, que la surface des choses, et c'est vrai que les actions au quotidien peuvent aussi être très importantes pour les populations dans les pays dans lesquels vous vous trouvez. Quelques mots sur votre appréciation de l'action de l'administration de Trump visant à des accords baptisés accords de Doha en février 2020, où se sont retrouvés les talibans, j'appellerai New Look, négociateurs face aux États-Unis.
Donc, le président Biden, évidemment, a été accusé suffisamment par la presse internationale et celle de son pays pour avoir décidé d'un retrait précipité et sans préparer l'armée afghane, etc. Tout ça est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce qu'en effet, comme vous le disiez, son prédécesseur lui avait un peu savonné la planche tout de même en le mettant devant le fait accompli d'un accord qui avait été consacré à Doha entre les Américains et les talibans directement, sans en parler à personne, sans y associer le gouvernement afghan et sans y associer non plus les Occidentaux que d'une façon extrêmement elliptique, les autres alliés des États-Unis. Et donc, au fond, quand Biden est arrivé, il savait qu'il avait une opinion publique qui était plutôt isolationniste, qui n'avait plus envie de perdre les fameux boys dans des combats à l'autre bout du monde, sans savoir ni pourquoi ni comment. Et il a pensé que dans la situation où il se trouvait, d'un pays, l'Amérique, divisé en deux camps irréconciliables, ce serait sans doute un geste vis-à-vis des Trumpistes, et que ça lui assurerait un peu plus de sérénité politique. Et il a été obligé, pour toutes ces raisons, de continuer à prendre ce train qui était déjà en marche. Et voilà, la seule chose quand même qu'on pourrait dire, c'est qu'il aurait pu faire patienter les talibans 2 ou 3 mois de plus pour faire en sorte que ce retrait ne se fasse pas dans une précipitation aussi théâtrale et tragique.
Vous pensez que Washington continuera à financer l'Afghanistan contre les visées chinoises et russes, alors que l'Afghanistan a déjà coûté des milliards aux États-Unis pour un piètre résultat? D'ailleurs, on peut même se demander où a été l'argent.
L'argent a disparu vraiment dans les poches profondes des élites, entre guillemets, au pouvoir en Afghanistan ces 20 dernières années. Une corruption généralisée. Et donc, l'argent a un petit peu ruisselé dans les grandes villes, et en particulier à Kaboul. Et là, c'est surtout quelques personnes bien placées qui ont constitué des fortunes énormes. Il y a des fortunes de 800 millions de dollars, de 600 millions de dollars, $1,2 milliard. Et ça, ce sont des gens qui étaient aux affaires, au gouvernement, et qui avaient leur commission sur tout, et on a bien vu d'ailleurs, parce que ça a été révélé par la presse, il y avait de faux régiments qui n'étaient pas payés, l'argent allait dans les poches, et c'était comme ça dans tous les domaines. Voilà un peu pour dresser le tableau. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est beaucoup étonné quand on a vu que Kaboul tombait comme un fruit mûr. En fait, c'était un fruit qui était pourri de l'intérieur et qui est tombé tout seul. Je dois dire que personnellement, je n'ai pas été surpris. C'est d'ailleurs pourquoi, en juillet, j'avais envoyé ce livre à l'impression en disant, voilà, les talibans vont arriver. C'était une évidence pour moi, comme pour tous les gens qui connaissent bien l'Afghanistan, que ça allait mal se terminer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les Américains se sont découragés. Parce qu'ils se rendaient bien compte que, d'une part, les talibans étaient chez eux depuis déjà des années dans les territoires de campagne, etc., qu'ils étaient bien acceptés par la population, les avaient accueillis souvent à bras ouverts, parce que leur idéologie était finalement très voisine de celle de tous les campagnards, mais de beaucoup d'entre eux. Et là où ils se heurtaient à une résistance, c'était essentiellement dans les villes où il y avait davantage d'éducation. من کجا و دست گل چیدن کجایی باغبان الفتی دوستان مرا اینجا به زور آورده در باغ و میخی رومی در باغ و میخی رومی Thank you.
Parlons un peu des journalistes qui ont suivi et couvert les derniers jours de la présence américaine en Afghanistan, et tout particulièrement des femmes, comme la grand reporter Lison Boudoul de TF1, mais il y en a d'autres, comme la correspondante d'Europe 1 par exemple. Que pensez-vous de ces femmes qui prennent des risques pour nous informer au plus près de la réalité? Est-ce une bonne chose que ce soit des femmes qui fassent des reportages sur ce qui se passe à l'heure actuelle en Afghanistan?
Ben moi, j'admire beaucoup ces femmes, bien sûr, hein, et leur courage est exemplaire. Toutes ces femmes journalistes qui nous parlent depuis les rues de Kaboul, en plein dans le chaos qui a suivi le départ et l'arrivée des uns et l'arrivée des autres. Et voilà, les femmes en remontrent aux hommes, souvent en matière de courage, donc c'est très bien.
Je voudrais vous faire réagir à deux témoignages, si vous voulez. D'abord, l'inévitable Bernard-Henri Lévy, qui a publié chez Grasset « Sur la route des hommes sans nom » et qui a parlé par téléphone avec Ahmad Massoud, le fils du regretté commandant Massoud, pour sa revue « La règle du jeu ». BHL donc s'adresse à Ahmad Massoud. Je peux donc dire dans mon pays, aux États-Unis, ailleurs, que vous gardez espoir. Et Ahmad Massoud lui répond : oui, nous restons fermes dans la tempête, le vent tournera, et encore plus si nous recevons de l'aide. J'espère de l'aide de votre pays. J'ai avec vous, quand je suis venu à Paris rencontrer le président Macron, j'ai été impressionné par ce jeune président qui admirait mon père et le général de Gaulle. Je ne peux pas imaginer qu'il nous laisse tomber. Il sait que les résistants du Panjshir sont un bouclier contre la barbarie, pas seulement pour le peuple afghan, pour tous les libres citoyens du monde entier. Que pensez-vous de ces déclarations ?
Mais je pense qu'il y a une sorte de confusion entre, d'une part, la légende du personnage historique qu'a incarné vraiment Massoud, parce qu'il a été un des grands héros de la résistance contre les Soviétiques, c'est indiscutable, il n'était pas le seul, hein, il y avait d'autres grands commandants qui se sont illustrés par des actes d'immense héroïsme, comme par exemple le commandant Abdul Haq ou Ismail Khan. Mais ensuite, il a eu aussi de grands mérites et il s'est montré comme un chef de guerre et un stratège tout à fait remarquable. Lorsque les talibans ont pris le pouvoir entre 1996 et 2001, en réussissant à mettre au point, il n'était pas seul, là encore, il y avait d'autres groupes qui voulaient résister contre les talibans. Il y avait les ouzbeks du général Dostum, il y avait également les hazaras, et tout ça s'est groupé. Massoud y jouait un rôle très important. Et ça a permis effectivement à un moment donné d'avoir l'espoir que le régime des talibans ne puisse durer. Et effectivement, ça l'a rendu exsangue, en fait, cette guerre qui n'en finissait pas. Mais les guerres, lorsqu'elles se terminent, voilà, là maintenant on est passé à un autre chapitre de l'histoire de l'Afghanistan. Une guerre civile de 43 ans se termine là, ces jours-ci. Il reste un tout petit réduit dans le Panjshir et certes le jeune Ahmad Massoud paraît être un jeune homme bien éduqué en Angleterre, etc. Et sans doute très épris du modèle que lui a légué son père. Mais je ne suis pas, pour ma part, qui connais mieux l'Afghanistan que beaucoup de nos Parisiens, je ne suis pas persuadé que ce mouvement puisse avoir la moindre justification, parce que d'une part, c'est la première fois que les talibans ont conquis tout l'Afghanistan. Il reste un minuscule petit réduit dans une partie de la vallée du Panjshir. J'espère que les talibans ne tueront pas le jeune Ahmad Massoud, qui mérite de vivre et sans doute pour un avenir meilleur. Et je ne crois pas qu'il ait un avenir dans les armes, dans la situation que nous vivons actuellement.
Thank you. Un deuxième témoignage, celui de Lakhdar Brahimi, ancien ministre des Affaires étrangères algérien, ancien représentant spécial de l'ONU, qui revient sur les 20 années d'aveuglement, nous dit Le Monde, le refus américain de discuter avec les talibans et surtout l'échec de l'importation d'un modèle institutionnel occidental. Il déclare « L'organisation d'une élection dans un pays en situation de post-conflit est considérée comme la première chose à faire, or ce devrait être la dernière. L'équation « vous mettez fin au combat, vous organisez une élection et le problème est réglé » ne fonctionne pas. L'élection doit avoir lieu le plus tard possible car elle divise les gens, elle ne les rapproche pas. De quelle démocratie parle-t-on quand vous organisez une élection en 2004, par exemple, qui coûte plus cher que le montant du budget de l'État afghan ?
Oui, ben je vois que Lakhdar Brahimi paraît avoir compris plusieurs choses importantes. Bon, au début, il avait été mon patron pendant quelques mois, l'année que j'ai passé comme conseiller politique aux Nations Unies, et j'avais essayé de lui expliquer qu'il fallait compter sur les tribus, que c'était le système tribal sur lequel on pouvait fonder des espoirs. Et il avait vraiment beaucoup de difficultés à comprendre ça. Il me disait non, les tribus, c'est comme l'Algérie, et ça n'existe plus. Non, il ne connaissait pas les tenants, les aboutissants. Mais là, visiblement, il a appris depuis cette guerre interminable, il a appris beaucoup de choses. Et je suis d'accord avec lui sur ce qu'il vient d'exprimer dans cet article. C'est-à-dire que les Occidentaux ont voulu plaquer leur modèle. Sur ce pays, comme sur beaucoup d'autres territoires, au gré des guerres civiles, des guerres de conquête et des attritions de toutes sortes. En vérité, les Afghans, ils aiment s'agréger autour d'un chef tribal. C'est le chef tribal qui, s'il y a des élections, qui va leur dire comment ils doivent voter. Et ils vont le faire, un peu comme le curé, il y a 100 ans, disait à ses paroissiens, votez un tel ou un tel. Et c'est une mauvaise comparaison, mais ça revient un peu à ça. Et donc, en fait, ce qu'ils connaissent, c'est le conseil, la shura, le conseil, la communauté. Et donc, l'idée des élections transversales, etc., dans une société profondément ethnique et tribale, c'est totalement aux antipodes de leur système de réflexion. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a strictement rien compris à ce type de pays. Et ça les dérange beaucoup, les Afghans, je pense, dans les campagnes. Dans les villes, ça peut fonctionner, bien sûr, mais dans certaines campagnes, d'aller voter pour une personne qui n'est le cousin d'aucune des personnes qu'ils connaissent, ça leur paraît quelque chose de tout à fait artificiel et ça ne convient pas culturellement.
Vous rejoignez l'opinion de Gilles de Ronsoro, professeur à Paris 1, qui a publié un livre, Le gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite, en quelque sorte. Cette défaite actuelle, elle était prévisible dès le début, dès que les premières actions pour de nouvelles institutions ont été créées.
Oui, ça, et puis, bien sûr, et de toute façon, M. de Ronsoro écrit souvent des choses très, très intelligentes. Hein, et c'est un des bons experts de l'Afghanistan, indiscutablement. Mais je partage tout à fait ça. Et je dois dire que lorsqu'on a vu, parce qu'il y a le côté social, politique, le plaquage idéologique, etc., mais il y a aussi l'aspect militaire. Parce que sur le plan militaire, les Américains n'y sont pas allés de main morte. Alors, évidemment, tuer, bon, quand il faut éliminer des gens qui vous menacent, c'est ce qu'on appelle la guerre. Mais c'était fait de façon un peu indiscriminée. Et par exemple, il suffisait qu'il y ait un rassemblement pour que les drones, les avions, depuis des milliers de mètres, se tirent et fassent 70 morts, très souvent. Et c'était une fois sur deux des mariages. Donc ça, si vous voulez, ça n'a pas échappé au peuple afghan. Quand les États-Unis parlent de leur frappe chirurgicale, on aimerait bien ne pas passer un jour entre les mains de tels chirurgiens.
Thank you.
Une ultime question, avant de se quitter. Comment voyez-vous l'avenir du pays? Est-ce que ce pays va sortir de ses années de guerre? Est-ce qu'il va se réformer? Ou bien va-t-il encore s'enfoncer dans une situation dramatique?
Les paris, si on peut employer ce terme, sont ouverts. On est dans une situation, je le répète, où pour la première fois depuis 43 ans, il n'y a plus de guerre civile. Et ça, pour beaucoup d'Afghans, c'est malgré les circonstances dans lesquelles ça se produit, c'est-à-dire l'arrivée d'un groupe à l'idéologie qui, pour beaucoup de personnes, peut être considérée comme menaçante et considérée comme une régression. Pour beaucoup d'Afghans, c'est tout de même un soulagement que de se dire on va pouvoir travailler en paix, éventuellement, et aller d'un endroit à l'autre sans risquer d'être rançonné, d'être kidnappé, etc. Parce que ces 20 années de libéralisme relatif n'ont pas apporté la sécurité. Et ça, c'est quand même une des aspirations élémentaires de tout peuple. Donc, il y avait de l'inquiétude, il y avait toujours cette guerre latente. Bon, il n'y a plus la guerre. Alors maintenant, les talibans ont peut-être la chance de durer si ils font les nécessaires concessions. Concessions à leur peuple. D'abord, le premier des devoirs, c'est de le nourrir, ce peuple. Et voilà, et de cesser la corruption qui a fait que ce peuple est resté dans une telle misère. C'est le premier des devoirs. Un autre devoir tout aussi essentiel, ce sont les droits humains. Et là, il va falloir la conjonction de tous les efforts de la communauté internationale pour faire en sorte que les talibans, s'ils ne le comprennent pas d'eux-mêmes, mais peut-être l'ont-ils compris d'eux-mêmes, puisque, à voir leur déclaration, ils le disent, en tout cas. Alors, il va falloir les prendre au mot, d'où les efforts considérables que nous devons mener, y compris avec des pays qui, là aussi, ne nous ressemblent pas, mais qui peuvent être des alliés de circonstance et des alliés précieux. Je pense évidemment au Qatar. Les Américains, finalement, ont un peu délégué au Qatar ce qu'ils ne voulaient plus déléguer au Pakistan, dont ils se méfient désormais, c'est-à-dire la responsabilité de donner le « là » de la politique sociale, etc. Donc les talibans, en réalité, je sais que ça paraîtra étrange à certains, mais je le crois, et donc je le dis parce que je m'intéresse davantage à la vérité qu'à la vérité qu'on voudrait entendre. Les talibans ont peut-être une chance de réussir si ils viennent à récipiscence.
Et la France dans tout ça? Certains disent que la France n'a rien à faire dans cette région, n'a rien à faire en Afghanistan. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces positions-là, ou est-ce que vous considérez qu'au contraire la France doit s'investir pour justement être un des éléments importants du retour de la paix dans ce pays?
Mais la France est un pays qui est très cher à beaucoup d'Afghans. D'abord, il y a beaucoup d'Afghans qui parlent notre langue, parce qu'on y a un lycée depuis presque 100 ans, qui est un lycée extraordinaire, qui a formé une grande partie des élites du pays, parce que on a toujours joué un jeu dans la mesure où nous n'avons jamais été dans cette région du monde une puissance ingérante, et les Afghans le savent très bien. Ils ont dû mettre dehors les Britanniques après trois guerres. Les Britanniques ont perdu quand même toutes les trois. Ils ont mis dehors les Soviétiques, ils ont mis dehors les Américains. Certes, la France, jusqu'en 2014, était présente militairement en Afghanistan, mais à la demande des Américains, mais aussi dans le but de mettre un terme aux agressions d'Al-Qaïda. Donc c'était pas un contexte qui était anti-afghan, le moins du monde. Et d'ailleurs, l'armée française avait une façon de procéder, indépendamment de ces frappes qui, elles, étaient beaucoup plus chirurgicales que celles des Américains. Elle avait une façon de procéder qui s'accompagnait toujours d'un soutien aux populations locales, là où elles étaient implantées, où nos forces étaient implantées. Et elles ont laissé, ça je le sais par beaucoup de témoignages d'Afghans qui m'en ont parlé, elles ont laissé un souvenir très différent, vous voyez. Enfin, tout ça mis tout ensemble fait qu'il y a une sorte de... Puis il y a cette passion française pour l'Afghanistan. Vous savez, par exemple, même la passion pour Massoud, Nous sommes le seul pays où on parle de Massoud, même si c'est parfois un peu à côté de la plaque, parce que bon, parce que cette cause-là appartient plus au passé qu'à l'avenir. Mais en tout cas, voilà, ça montre aussi l'attachement des Français à ce pays, parfois à juste titre, parfois moins. Et bien sûr que la France a un rôle à jouer parce que c'est un pays qui compte dans le monde, sa voix est entendue, parce que sa voix est très importante au sein de l'Europe et que l'Europe, c'est tout de même la première puissance commerciale du monde, ne serait-ce que ça, et que la France est un membre du Conseil de sécurité, que c'est un grand pays, que c'est une des principales économies du monde. Je veux dire, la France ne peut se désintéresser de rien.
L'interview de notre ambassadeur a été ponctuée d'intermèdes musicaux, du concert de musique traditionnelle afghane issu d'un festival de Marseille en 2012 et 2013. Avant le retour au pouvoir des talibans, la musique traditionnelle n'était pas la seule musique écoutée en Afghanistan. Et France 24, en janvier 2018, avait consacré un reportage au groupe Zora, le premier orchestre féminin, 100% féminin, en Afghanistan. Je vous propose donc d'écouter ce groupe en remerciant France 24 pour son reportage, plein de sens et qui nous fait réfléchir en ce mois d'octobre 2021 pour ce clé en main sur Radio Grand Ciel.
Allez, le focus, et nous allons vous montrer une autre image de l'Afghanistan. Loin de la violence, loin des armes, voici un orchestre 100% féminin. Il est donc composé de jeunes musiciennes qui cherchent à s'imposer malgré les préjugés et l'extrémisme. Elles reçoivent également une éducation scolaire très soutenue, la meilleure des résistances face aux terroristes. Reportage Nicolas Bertrand, Thomas Donzel.
Ce que ces jeunes femmes s'apprêtent à faire les met directement en danger de mort. Elles ont entre 13 et 20 ans et toutes n'hésitent pas une seconde. Elles ont choisi, ce sera la musique. Voici l'orchestre Zora de Kaboul, composé uniquement par des femmes. Jouer de la musique est encore considéré comme un péché mortel par les talibans et interdit dans de nombreuses familles afghanes. Mais elles veulent envoyer un message à leur pays.
Comme mes parents m'ont autorisé à m'instruire, les autres parents doivent aussi autoriser leurs filles à s'émanciper. Les gens qui ne veulent pas, il faut leur expliquer pour qu'ils comprennent.
Nigine, par exemple, est la première femme de l'histoire du pays à être chef d'orchestre. Une autre image de l'Afghanistan.
Les gens en dehors de notre pays pensent que nous restons simplement assises à la maison et que les femmes d'Afghanistan ne sortent pas de chez elles. Mais non, nous voulons montrer aux gens que nous travaillons beaucoup et que nous voulons la paix et donner le meilleur.
Mais pour en arriver là, dans un pays où la condition des femmes est probablement une des pires au monde, elles ont dû relever bien des défis. Toutes les filles de l'orchestre Zora vivent ici, un orphelinat au cœur de Kaboul. Et dès le réveil, il y a bien sûr de la musique dans toutes les chambres. Et pas seulement du classique. La moitié sont des orphelines. Les autres ont des parents trop pauvres qui ne pouvaient pas s'occuper d'elles, comme Madina.
Moi, je suis arrivée ici quand j'avais 4 ans. Là où je vivais, il n'y avait pas d'école et la situation économique n'était pas bonne. C'est pour ça que je suis venue ici, pour faire mes études. Et ça veut dire que j'étais la plus petite quand je suis arrivée.
Chez moi non plus, aucune fille n'a accès aux études. Et les filles sont mariées bien avant de devenir adultes. Ma famille était contre ça. Alors oui, bien sûr, ma famille me manque. Mais je suis là pour les études. Je dois tenir le coup.
Les jeunes femmes prennent leur petit déjeuner à même le sol, avant de partir à l'école. Pashtana Rasoul est la directrice de l'orphelinat. C'est une ancienne pensionnaire. Son père, instituteur, a été exécutée par les talibans alors qu'elle était enfant. Aujourd'hui, elle se bat pour ses protégés.
Les filles qui restent à la maison, elles n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche devant leur père ou leur frère. Mais ici, elles apprennent comment se comporter, être indépendantes et être fortes. Elles vont obtenir un diplôme plus tard, devenir des professeurs, des docteurs.
Mais le moment le plus dangereux de la journée, c'est juste après, quand il faut partir à l'école. 15 minutes de marche et toujours la peur d'une attaque.
N'oubliez pas de surveiller à chaque instant tout ce qui se passe autour de vous.
L'orphelinat compte 6 gardes. Certains sont armés pour la sécurité des musiciennes. En chemin, elles ne peuvent s'empêcher d'imaginer le pire.
Il se peut que nous soyons kidnappés. Et tout ce qui arrive en Afghanistan, les attaques à l'acide et les attentats suicidaires.
Et pourtant, pas un jour, elles ne manqueraient d'aller en classe. Leur courage et leur musique a dépassé les frontières d'Afghanistan. Quelques jours plus tard, les voici à New Delhi. Le Zora Orchestra est invité pour un concert dans un grand hôtel de la capitale indienne. Juste avant de monter sur scène, elles pensent à leur famille, qui ne les verront probablement jamais jouer.
Ma famille a dû affronter tellement de problèmes. Les talibans les ont menacés encore et encore. Ils disaient « Retirez votre fille de l'école de musique ou nous allons vous tuer ». Mais ils ont tenu bon. Et je suis là, très heureuse. Je vis mon rêve.
Trente jeunes femmes viennent démontrer que leur pays ne se limite pas à 40 années de guerre, au terrorisme ou à l'extrémisme religieux. Les musiciennes désirent montrer le chemin vers un nouvel Afghanistan en paix. Où les femmes et la musique auraient toute leur place.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.